10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Et l'air de jeu qui va rugir ce matin. Bonjour, Claire.
Mais bonjour Florian, bonjour. Non, pas du tout.
Bon, ben ça va. Alors.
Bonjour Florian, bonjour à Jean-Pierre et bonjour à vous tous et à vous toutes. Si vous nous rejoignez et que vous nous suivez en vidéo, vous aurez pu le constater hein, dans notre studio, on a de magnifiques photos des lions, des lionnes. Et on vous montrera encore plein d'autres photos d'animaux puisque notre invité Jean-Pierre Blanchet est passionné depuis de longues années par la photo animalière. Il se rend fréquemment au Kenya. Donc, on va vous proposer aussi de faire un petit safari. Alors, sans partir de chez vous, hein, on va vous faire voyager ce matin, en ce dimanche de Pâques, jusqu'à midi. Jean-Pierre Blanchet, bonjour.
Bonjour Claire, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Ça fait bien 20 ans qu'on ne s'était pas rencontrés.
Exactement, parce que pour la petite anecdote, il y a plus de 20 ans maintenant, quand j'animais l'émission Les Pousses Verts avec des jardiniers, vous étiez l'un des jardiniers qui venait une fois par mois sur RTN.
Voilà, c'était mon premier métier, j'étais fleuriste, mais ça fait bien longtemps tout ça. Il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts, j'ai fait beaucoup d'autres choses et je suis très heureux d'être là pour vous parler de ma passion de la photographie animalière et de mes voyages au Kenya.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit bonjour dans la langue nationale du Kenya?
Ben, écoutez, le Kenya oui, a deux langues nationales, une qui est l'anglais et puis le swahili. Donc, karibu ham jambo ningependa kusema salamu watu wote. Nimefurahi kuwa hapa kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi nzuri sana kabisa. Napenda watu wa Kenya.
Ici, Radio Kenya.
Mimi ni mpigaji picha, napenda kupiga picha wanyama wa pori. Sasa hivi, tuende kwenye pori kwa kuona wanyama wengi. Pia na Bibi Claire. Bibi Claire ni mtu mwema sana. Natumai mnafahamu ninachosema. Lugha ya Kiswahili ni lugha ngumu sana na jaribu kujifunza Kiswahili.
Donc, bravo. Est-ce qu'il y a beaucoup de Kenyans un petit peu dans la région? Est-ce que vous en connaissez quelques-uns?
Il y en a, oui, bien sûr. J'en connais. Je vais saluer Mama Zilpa, ma professeure de Swahili. Comme je ne parle pas l'anglais, pour moi, apprendre une langue, ça a toujours été un peu ma bête noire, c'est toujours ce qui a été un peu difficile, c'était un grand défi pour moi. J'ai même jamais réussi d'apprendre l'anglais. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'avais envie de pénétrer un peu plus la culture, comprendre un peu mieux. Je me suis dit, je vais essayer d'apprendre le Swahili. Mais je ne vous cache pas que ça a été très difficile de trouver quelqu'un à Neuchâtel qui parlait français et Swahili. On trouve des gens qui parlent anglais et Swahili beaucoup plus facilement, mais chez nous, il n'y en avait pas beaucoup, mais j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui avait épousé un Suisse et qui était venue depuis le Kenya en Swahili.
En tout cas, c'est très joli ce que vous nous avez dit. Je vous tire mon chapeau, Jean-Pierre, parce que je ne pense pas que je me mettrais à apprendre cette langue. Et vous, Florian?
Alors, moi, en ce moment, je suis dans le thaïlandais, en train d'essayer d'apprendre le thaïlandais. Donc, c'est autant compliqué. Hein,
j'imagine bien. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, très jeune, de vous consacrer à la photo animalière, Jean-Pierre?
Écoutez, j'ai toujours été intéressé par la nature, par les petites bêtes qu'il y avait autour de moi. J'avais un jardin, puis j'étais passionné, j'attrapais des insectes que je mettais dans des petites boîtes. Bon, on dira, c'est peut-être pas très bien, mais...
Mais après, vous les relâchiez.
J'ai réalisé que quand j'en attrapais une douzaine, tout d'un coup, quelques heures après, où il n'y en avait plus que trois ou quatre. Et puis, c'est là que j'ai appris les interactions entre les espèces. Et j'avais ce qui se vit dans la savane en miniature dans ma petite boîte, dans mon jardin. Et j'étais un passionné des documentaires animaliers. À l'école, quand j'étais à l'école secondaire, j'ai fait les activités à option photo. Et je suis tombé sur un photographe passionné qui m'a donné envie. On allait faire des photos dehors. Bon, il me reprochait de photographier toujours les canards.
Et ça a bien changé parce que vous photographiez des lions, des lionnes, des guépards, des léopards.
L'air de jeu, le défi.
Pour le défi, ce sont des photos que vous allez nous envoyer jusqu'à midi moins le quart, avec un thème choisi par notre invité, Jean-Pierre Blanchet. Quel genre de photos vous aimeriez que les gens nous envoient par WhatsApp afin d'élire la photo gagnante de ce dimanche?
Ah ben, ce qui pourrait être sympa, c'est d'envoyer une photo d'un animal sauvage qu'ils auraient photographié autour de chez eux, dans leur jardin, ou pourquoi pas lors d'une visite dans un parc zoologique, ou alors carrément pendant une balade dans la nature, un animal peut-être original.
Oui, ou si vous avez eu l'occasion vous-même d'aller faire un safari, et n'hésitez pas à nous les envoyer au numéro
079
809
20 20.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Jean-Pierre Blanchet, qui est un passionné de photographie animalière et qui est avec nous ce matin dans l'air de jeu pour nous faire partager sa passion et surtout donc le Kenya. Pourquoi ce pays-là ?
Pour moi, c'est déjà l'Afrique, c'était un rêve d'enfance. Donc, j'ai toujours rêvé, j'avais plusieurs oncles qui étaient en Afrique pour des organisations d'entraide, etc. Pour moi, vraiment un rêve inaccessible. Je brûlais d'envie de voir ces animaux que je voyais à la télévision. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion d'aller, c'était pour mes, sauf erreur, pour mes 10 ans de mariage, on était allé au Kenya faire un safari. Mais j'ai pu y aller que quelques jours, puis je suis resté terriblement sur ma faim, parce que ben, on était un peu dans une organisation touristique, et puis voilà, il fallait fallait respecter les horaires, tous les problèmes et tout ce qu'on n'a pas envie de vivre quand on est avec une organisation touristique. Et je suis pas retourné pendant très longtemps. Et tout d'un coup, j'ai appris l'existence d'un photographe animalier français. Avec l'arrivée du numérique, vendre une photo, c'est devenu très difficile. Elles ont perdu de valeur. Donc, il pouvait plus vivre de sa passion de la photo. Donc, il a ouvert un camp pour photographe dans le Maasai Mara. Et j'ai écrit, j'ai pu aller dans ce camp. Alors, c'était une toute autre ambiance. On pouvait aller dans la savane. Si on voulait pas rentrer manger, on pouvait rester. Enfin, et puis, il y avait ce fameux guide qui est mon ami maintenant, Jackson. Il est né dans le Maasai Mara, dans un village traditionnel. Ensuite, il a construit une maison de ses propres mains dans le Maasai Mara. J'ai vraiment senti que cette personne avait quelque chose de plus, quoi. Il m'a montré son pays, il m'a parlé de son pays avec une telle passion, sans jamais rien me demander en retour, ce qui n'est pas toujours évident.
Et comment vous avez communiqué avec Jackson ?
Lui, il comprend un petit peu le français. J'étais avec ma famille qui parle l'anglais. Mais c'est vrai qu'on peut se dire aussi, quand on est dans la nature comme ça, on peut aussi se dire énormément de choses. On serait étonné de toutes les choses qu'on peut se dire sans forcément les mots. Les mots, c'est qu'une partie de la communication.
On a des photos, il y a des montagnes. C'est vraiment très, très joli. Il y a des lacs.
Oui, voilà. C'est un pays magnifique.
Cette montagne-là.
Ouais, cette montagne, elle est sur la Tanzanie, mais c'est la montagne sacrée des Maasai. C'est Eldoinyo Lengai. C'est un volcan. Sur cette montagne, c'est leur dieu qui vénère, entre guillemets. Mais la culture Maasai traditionnelle tourne beaucoup autour des vaches. Et ce dieu leur aurait donné les vaches. Et les vaches, en fait, sur Terre, selon eux, leur appartiennent.
Et puis voilà, ça aussi c'est très joli comme photo.
Oui, là c'est près du lac Natron.
Il y a beaucoup de lacs.
Ah, alors sur le rift africain, donc la partie où le continent se sépare. Il y a énormément de lacs et des lacs très différents. Vous pouvez avoir un lac d'eau douce. Par exemple, on a le lac Baringo, autour duquel il y a plus de 400 espèces d'oiseaux nicheurs qui vivent. Qui est un lac magnifique où il y a une population particulière de lac Maasai. Et ici, sur la photo qu'on voit, ça c'est le lac Bogoria. C'est le lac où il y a tous les flamants roses. C'est le lac que l'on voit si vous avez déjà vu le film Out of Africa. Et quand ils sont dans l'avion, ils survolent ce lac où il y a des milliers de flamants roses. Alors ça, c'est un lac saturé en sel. On ne pourrait pas s'y baigner. D'ailleurs, les flamants qui vivent sur ce lac ont des écailles particulières sur les pattes pour supporter d'être dans cette eau. Et ils filtrent, ils mangent ce qu'on appelle l'algue bleue.
Ils sont très beaux. Hein,
mais c'est magnifique.
Alors,
il y en a des milliers et des milliers. Et c'est impressionnant. C'est endémique à quelques lacs très saturés en sel. Et là, il y a très, très peu d'espèces qui vivent, mais des espèces très adaptées. Comparé au lac Baringo, il y a énormément d'espèces parce que c'est de l'eau douce.
Jean-Pierre, on parle de quelle altitude, là, si on regarde un petit peu les sommets sur l'image que derrière vous ?
Alors, le Kenya, ce qui est extraordinaire, c'est que ça part de l'océan. Vous avez l'océan Indien, puis vous avez le mont Kenya qui culmine à plus de 5000. Donc, on a des hauts plateaux. Par exemple, la capitale, la ville de Nairobi, est à peu près 1650 mètres, sauf erreur. Le Maasai Mara est aussi entre 1600 et 1800 mètres. Donc, il y a un climat très, très, pour moi, très agréable parce qu'il fait chaud la journée et puis la nuit, ça se rafraîchit, donc on dort bien.
L'air de jeu, jusqu'à midi, avec Claire et Florian.
Et Jean-Pierre, voilà, tout est dit.
Et nous avons un candidat pour jouer avec nous, c'est Niven. Bonjour Niven.
Bonjour.
Votre animal sauvage préféré, c'est lequel ?
Le guépard, j'aime bien.
On aura de jolies photos hein, de guépard à vous montrer. Mais pour l'heure, on va jouer et voici votre jeu.
L'air de jeu, le blind test.
Ce sont des chansons qui ont dans le titre un rapport avec l'Afrique. Et figurez-vous que ce sont trois chansons qui sont sorties en 1982. Il faudra me donner en tout cas deux bonnes réponses pour remporter une entrée pour aller aux grottes de Valorbe. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Quelle chanteuse a connu le succès en 82 avec cette chanson ?
Africa, j'ai envie de danser comme toi.
Oh, Florent.
Quel est le titre de cette chanson ?
Et de Saint-Louis à Yaoundé, des lacs salés au vieux Kenya. C'est tout un peuple qui va danser comme s'il allait mourir de joie.
Alors le titre ? Il me faut une réponse.
Le titre, ouais, un instant.
On termine avec celui-ci. À quel groupe californien doit-on cette chanson ?
Hôtel California.
Dans ce blind test, mon cher Niven, il y a une bonne réponse. C'est effectivement Rose Lawrence qui a connu le succès en 82 avec cette chanson. Ensuite, la chanson... Vous avez reconnu l'artiste qui nous disait de Saint-Louis à Yaoundé, des lacs salés au vieux Kenya. C'était Michel Sardou.
Oui, j'ai connu Michel Sardou.
Oui, mais sa chanson, c'était Afrique à Dieu. C'est ça la réponse qu'on attendait, Afrique à Dieu. Et puis, c'était le groupe Toto. Groupe californien qui a chanté en 1982 ce titre Africa. On a eu le plaisir de vous avoir avec nous, Niven. On vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Profitez bien encore de demain, le lundi de Pâques. Et puis, à bientôt sur RTN. Au revoir.
Ouais, merci. Au revoir.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Et oui, l'air de jeu qui vous fait voyager aujourd'hui jusqu'au Kenya, joli pays avec beaucoup de nature, beaucoup de verdure, j'imagine, Jean-Pierre.
Ah, de la verdure, oui, ça dépend la période de l'année. Des fois, c'est sec, des fois, c'est très vert. C'est particulier dans le Maasai Mara, particulièrement, plus souvent.
Alors, quand vous parlez de Maasai, bon, c'est un peuple, hein, mais c'est une région propre au Kenya.
Le Maasai Mara, c'est une région dans laquelle vivent, ou plutôt, je dirais, vivaient les Maasai, puisqu'on en a fait un parc après-guerre. Tous ces grands parcs africains, on a plus ou moins forcé les populations à partir pour faire ces réserves naturelles. Donc, ces endroits sauvages ne l'ont pas toujours été. Les Maasai sont à l'origine plutôt nomades. Ils ont besoin de se déplacer. On a essayé de les sédentariser. Alors, ce n'est pas forcément une bonne idée, mais c'est comme ça que ça a été fait. Donc, le Maasai Mara, c'est la partie kenyane du Serengeti, plus connue. Donc, le Serengeti qui est plutôt sur la Tanzanie. C'est une région où il y a une densité particulièrement importante de faune et d'animaux.
C'est la savane, donc.
C'est la savane.
Et justement, alors là, on a de magnifiques photos de lions. On a des posters aussi ici dans le studio et puis sur les écrans derrière nous également, on vous diffuse de magnifiques photos de lions que vous découvrirez donc ce soir sur notre galerie photo. J'imagine que pour photographier de tels magnifiques animaux, hein, c'est quand même le roi de la jungle, hein, le lion, ça demande beaucoup d'heures et puis surtout ben, un appareil très performant. Et comment vous faites pour que les animaux approchent mais sans vous voir.
Déjà, le roi des animaux, comme étant le lion, c'est plutôt nous qui avons cette idée. Là-bas, c'est plutôt le léopard qui est considéré comme le roi des animaux. Mais nous, c'est vrai qu'on a tendance à y voir le lion. Alors, le lion, c'est vrai que c'est l'animal emblématique. Hein. Bien sûr, les photographes animaliers vous diront « Oh, c'est beaucoup plus facile de photographier un lion en Afrique qu'un renard chez nous. » Effectivement, c'est plus facile de trouver peut-être un lion en Afrique qu'un renard chez nous, mais quand il s'agit de faire une bonne photo, une fois qu'on est devant l'animal, c'est un peu la même chose. Donc, il existe des milliers de photos de lions, mais j'en fais beaucoup. En faire une bonne, c'est assez difficile.
Celle-ci, moi, je la trouve vraiment magnifique.
C'est juste avant le coucher du soleil, la lionne qui déplaçait son petit.
La lionne qui porte comme ça son petit, elle est vraiment... elle est magnifique, elle est magique, cette photo.
Mais des félins, voilà, on en a aussi chez nous, hein, on parle souvent du lynx. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer et j'ai réussi d'en faire quand même une photo avec sa proie dans la gueule. Et depuis ce moment-là, on me dit un peu moins que c'est plus facile de photographier un lynx chez nous qu'un lion en Afrique. Parce qu'en fait, au moment où vous êtes devant le lynx, c'est pas plus difficile de faire une photo d'un lynx que d'un lion en définitive.
Mais comment vous faites, vous êtes camouflé?
J'ai un appareil qui permet de photographier, enfin j'ai un bon téléobjectif qui permet d'être pas trop près de l'animal, mais en Afrique vous pouvez être tout près. On est dans une voiture, des fois on a les fenêtres ouvertes, le toit ouvert, et puis des lions nous passent à un mètre, je me suis jamais senti en danger. D'ailleurs, quand j'ai rencontré le lynx dans le canton de Neuchâtel, j'étais dans un affût. À un moment donné, il était tellement à l'aise que je suis sorti de mon affût. On a passé 10 minutes ensemble à se regarder. Alors, il y avait beaucoup de branches. C'était un peu difficile de faire des photos dans la forêt, suivant où vous êtes, pour avoir du dégagement, pour que la photo soit bonne. C'est pas évident, mais...
Si vous retrouvez face à un lion, ça...
Alors, il faudrait pas sortir de la voiture. Il y a des règles à respecter. Mais bon, là, ils sont aussi habitués aux humains. Mais oui. Quand vous avez l'animal dans son milieu naturel, moi, j'aurais beaucoup plus peur d'un chien ou d'un animal dans un zoo que d'un lion dans la savane.
Ils ne perçoivent pas forcément pour de la nourriture pour eux?
Non, alors, je pense pas. Mais même quand ils rencontrent d'autres animaux, ils sont pas, ils ont leur proie de préférence. Donc, une gazelle ou un phacochère, mais ils auront leur préférence, leur hiérarchie de préférence. S'il y a des gazelles, ils n'iront pas toucher autre chose, par exemple, ou un gnou, etc. Les animaux savent si les lions... Enfin, d'ailleurs, vous avez les troupeaux. C'est ça qui est extraordinaire en Afrique, c'est que vous avez les troupeaux de gazelles, les troupeaux de gnous, vous avez les lions autour, ils se voient. Et vous pouvez savoir si les lions ont faim selon la distance qu'ils mettent entre le prédateur et la proie. Donc, plus les troupeaux s'éloignent des lions, plus les lions vont peut-être bientôt chasser. Vous avez dans la savane des enfants de 10, 12, 14 ans qui se promènent avec des troupeaux de moutons et de chèvres. Et vous avez des lions autour, vous avez des guépards, vous avez des léopards. Leurs parents leur ont appris à connaître le comportement des animaux, savoir si c'est dangereux. Tout à fait comme chez nous, on apprend à nos enfants en traversant la route, pas se faire écraser par une voiture. Alors effectivement, de temps en temps, il y a des accidents là-bas aussi.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Avec Jean-Pierre Blanchet qui nous a amené des superbes images qu'on vous montre. Donc vous pouvez vous connecter sur rtn.ch.
Les animaux, c'est votre passion. Les animaux que l'on découvre dans la savane également. Alors, mis à part, là, on a parlé des lions. Quels sont les autres animaux que vous aimez photographier? Est-ce qu'il y en a quelques-uns particulièrement?
J'aime découvrir, j'aime un peu tout. C'est sûr que quand on a l'occasion de photographier les félins, c'est rassé, c'est beau, quand vous rencontrez un léopard, par exemple, c'est une émotion, c'est magnifique. Après, il y a tous les grands animaux emblématiques.
Ça, c'est le guépard, là.
Ça, c'est le guépard, oui. Ce qui est intéressant, c'est que chaque félin a un petit peu sa technique de chasse différente. Donc, le guépard, il est capable de courir très vite, donc il va compter sur sa vitesse, il va s'approcher un maximum. Tandis que le léopard, qui court quand même, enfin il court vite mais quand même moins, lui il a la tactique de l'affût. Lui il va rester sur un arbre ou il va se cacher derrière un buisson et il va attendre. Et quand un animal va passer à quelques mètres de lui, il va lui sauter dessus.
J'aime beaucoup cette photo là avec l'hippopotame.
L'hippopotame fontaine.
Voilà, l'hippopotame fontaine. Mais là aussi, il faut vraiment être à l'affût pour avoir une telle photo magnifique.
Oui, faut, là, je suis sur un petit bateau. C'est sur le lac Baringo.
C'est ces petits bateaux que vous avez devant vous, là.
Ces petits bateaux-là, bon, ça, c'est les petits bateaux qu'utilisent les Niems. C'est un peuple de Maasai sédentarisé autour du lac. C'est particulier, donc ils vivent de la pêche. C'est particulier dans le sens que d'habitude, dans leur tradition, les Maasai ne consomment pas le poisson parce qu'ils l'assimilent au serpent et ils ne consomment pas le poisson. Par contre, cette branche de Maasai sédentarisée autour du lac, eux, c'est particularité, il pêche et il mange le poisson. Et il fabrique...
C'est ça, voilà. Sur la photo, on le
oui,
voit.
Oui, hein. On le voit sur l'image. Les bateaux que j'ai apportés, c'est d'ailleurs eux qui les ont fabriqués en miniature. Mais ils les font.
Ils sont faits en même... quoi,
alors,
ces bateaux?
C'est une espèce de balsa, c'est le bois d'Ambach, sauf erreur. C'est une plante qui pousse autour du lac. C'est une plante arbuste, enfin, c'est plutôt une plante. Ils récupèrent les tiges, c'est très, très, très léger. Ils les attachent ensemble, ils font ces petites embarcations et ils vont sur le lac pêcher. Nous, ils nous servent souvent de guide pour aller justement observer les oiseaux. Et notamment, il y a un oiseau emblématique sur le lac Baringo que les photographes aiment bien les photographier, c'est l'aigle pêcheur.
Et celui-là d'oiseau
Ça, c'est le calao terrestre. Ça, c'est plutôt un oiseau des savanes. Alors là, c'est les derniers instants de la grenouille. C'est assez difficile d'obtenir cette image parce qu'il faut être bien placé au bon moment, parce que l'oiseau, il ne fait que marcher. Dans la savane, il essaye d'attraper des insectes, des grenouilles, et à un moment donné, il se promène avec, et à un moment donné, il la lance en l'air et il la mange. Voilà l'aigle pêcheur. Alors ça, c'est
un aigle pêcheur.
Ouais, ils viennent des fois voler du poisson sur les bateaux des pêcheurs. Alors pour s'en débarrasser, entre guillemets, ils leur lancent quelques poissons et puis que les pigards viennent chercher, puis qu'ils vont manger plus loin sur un arbre.
Pour les éloigner, en quelque sorte.
Alors les photographes on utilise cette méthode. Les pêcheurs leur donnent du poisson et ça nous permet de faire une photo sympathique.
Jusqu'à midi, l'heure de jeu.
Et jusqu'à midi, l'heure de jeu partage avec Jean-Pierre sa passion de la photo, de ses animaux. Assez impressionnant, hein, si je fais le lion, Claire, est-ce que vous avez peur?
Non, enfin... j'ai pas peur du tout. Et oui, on est au cœur de la savane kényane avec notre invité, hein, Jean-Pierre Blanchet. Est-ce qu'il y a différentes ethnies au Kenya?
Il y a beaucoup d'ethnies.
Plus répandu, c'est quoi? C'est les Maasai?
C'est en tout cas un des peuples qui fait un peu le plus parler de lui, parce que c'est un peuple fier, qui fait beaucoup de choses, puis qui est connu parce que les gens vont faire des safaris au Kenya. Les Adzabé, c'est un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs...
D'abeilles?
C'est sur la Tanzanie, mais c'est tout près du Kenya. Ils récoltent le miel de différentes espèces d'abeilles. Et la particularité des Adzabé, c'est qu'ils sont, depuis des temps immémoriaux, en collaboration avec une espèce d'oiseau qu'on appelle l'oiseau indicateur, qui leur indique où se trouvent dans les arbres des endroits où les abeilles ont pris place et font du miel. Et en contrepartie, ils vont chercher le miel et ils leur donnent une partie du... Enfin, notamment, je crois, la partie la cire... Enfin, puis certaines. Donc, ils ont une collaboration, ils sifflent, ils arrivent, ils communiquent avec ces oiseaux qui leur montrent où est. J'ai eu l'occasion d'aller les visiter avec mon ami, c'était le directeur du jardin botanique de Neuchâtel, Blaise Mulhauser. On a été les rencontrer, c'était vraiment une expérience extraordinaire.
Et là, on vous voit avec des enfants.
Oui, alors là, c'est avec des fils de Jackson et puis un autre enfant. J'ai eu l'occasion d'aller dans sa maison, la maison qu'il a construite lui-même. Il a dû construire une petite maison pour surveiller son chantier, donc il dormait à côté pour pas qu'on lui vole ses briques, etc. Et il a construit une maison dans le Maasai Mara. Et il a des... Ça, c'est avec ses moutons, ses chèvres. Et voilà, ça, c'est avec sa famille, une partie de ma famille et une partie de sa famille.
Alors, qui est Jackson pour vous?
Pour moi, c'est un ami, comme j'aurais un ami ici, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger dans une culture différente. C'est une richesse extraordinaire de pouvoir prendre ce qu'il y a de bon dans sa culture et inversement. Alors, ce qu'il ne faut jamais faire, enfin, à mon avis, hein, ce qui est faux, c'est de croire qu'on peut apporter quelque chose. Il faut laisser prendre, il faut montrer ce qu'on a et laisser prendre ce dont ils ont besoin. Moi, j'ai vraiment appris ce que c'était que d'être, le être. Ici, on a beaucoup l'avoir, mais être, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais dans sa maison pendant quelques temps, il y a extrêmement peu de choses. Sa cuisine, c'est une table, deux tréteaux, et puis on a un feu dans le jardin. Mais avec ça, ils font tout. Il est même arrivé à me faire des frites. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que quand j'avais... peu de choses, alors qu'il y a quand même ce qu'il faut, hein, donc, mais on est dans un milieu, puis lui aussi, ils sont dans le moment présent, ils sont dans la journée, ils n'ont pas cette notion qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va préparer demain, etc. Nous, on est toujours en train de penser qu'est-ce qu'on va faire demain. Bon, ça, c'est aussi une question. Eux, ils sont sous l'équateur, donc il y a des saisons, mais c'est très peu marqué. Donc, tous les jours, le soleil se lève à la même heure, tous les soirs à la même heure. Chez nous, c'est tout en changeant. On a l'été, on a l'hiver, donc nous, on doit penser à l'hiver. Donc, ancestralement, déjà, nous, on devait préparer, faire des réserves pour l'hiver. On veut toujours préparer le lendemain. Parce qu'eux, ils vivent le jour.
Et oui, ils vivent simplement, et je pense qu'ils sont tout aussi heureux que nous.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Un dimanche qui nous fait voyager aujourd'hui, Claire, parce qu'on voyage au Kenya.
Avec Jean-Pierre Blanchet, qui est passionné par ce pays africain. Quand vous partez pour aller faire vos photos, vous ne savez pas quel animal vous allez rencontrer. Comment vous organisez une séance photo ?
Il y a plusieurs façons de voir les choses, de l'organiser. Personnellement, moi, j'aime bien être un peu surpris par ce que je vais découvrir. Alors, on peut bien sûr viser quelque chose de particulier si on veut voir un animal particulier. On veut photographier tel animal ou telle scène, etc. J'ai toujours préféré, puis j'ai toujours eu un peu de chance en écoutant déjà mon guide, en disant, lui, il sait ce qui se passe, il connaît, il a aussi des informations.
Vous ne partez pas seul, donc
non,
vous avez
avec un guide. Avec guide Maasai, ouais. Il connaît leurs habitudes, hein, parce que c'est comme moi, si vous venez avec moi près de chez moi, au bord du lac, je peux vous dire, là, vous allez voir telle chose à telle heure, plus ou moins, bien sûr, mais où j'ai plus de chance d'observer. Donc, je fais confiance à mon guide, et puis après, on essaye tout d'un coup, il y a une information qui vient, qu'il y a un groupe de lions qui potentiellement va peut-être aller chasser, ou alors un animal particulier a été vu à tel endroit. Et puis, alors, moi, je me laisse un peu guider par mon guide. Par contre, il faut, alors, si vous voulez faire des bonnes photos, il faut être sur place avant le lever du soleil, parce que vous êtes sur l'équateur, le soleil monte très, très vite, donc vous avez très peu de temps pour faire des bonnes photos, parce que pour faire une bonne photo, il faut une bonne lumière.
Les photos qu'on voit derrière vous avec ces animaux,
le lever du soleil, là, les éléphants. Alors là, il faut être sur place avant que le soleil se lève, parce que il est juste pendant cette photo, on a 3-4 minutes pour la faire. Après, le soleil est trop haut, il monte très rapidement. Puis à partir de 9h, vous ne faites plus une bonne photo, parce que le soleil, la lumière est blanche, ça tape. Donc vous avez 2-3 heures le matin pour faire des photos et 2 heures le soir en bonne lumière.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir eu peur?
Non,
jamais.
Je me suis jamais senti en danger. Pourtant, on a été coursé une fois par un rhino, on a eu des éléphants qui sont venus près de la voiture. Si j'avais été seul, oui, c'est certainement, mais j'ai confiance en mon guide Maasai. Lui, il a passé des nuits entières devant ses troupeaux pour empêcher les lions, les léopards de venir les lui prendre. J'entends, je ne vois pas pourquoi j'aurais peur.
Et c'est vrai qu'il y a tellement d'animaux dans cette savane. C'est quoi comme...
C'était l'élan du Cap, là, vous avez des gnous.
Ah oui, les gnous.
Tout d'un coup, on a vu une lionne qui était au bord de la route, contre le talus. Elle semblait se cacher, puis on n'a pas vu tout de suite qu'il y avait un gnou plus loin. Donc, elle s'était cachée parce qu'elle voulait tenter de l'attraper. Et puis, alors, on s'est arrêté, on s'est dit, là, on va attendre, on va voir ce qui se passe. On est resté bien tranquille. Elle est allée, elle a mis un bon moment, elle a rampé jusqu'à ce que le gnou est allé boire. Il était sorti du troupeau pour aller boire. Il était seul dans un point d'eau. Et la lionne a rampé, elle est arrivée tout près, elle lui a sauté dessus. Mais comme c'était humide et qu'il était en train de boire de l'eau, elle a un peu glissé, elle ne l'a pas tout de suite attrapé. Le gnou s'est retourné et c'est lui qui a poursuivi la lionne et qui l'a chassé. Elle ne l'a pas attrapé.
Jusqu'à midi. L'air de jeu.
On a parlé de la savane avec ses animaux, les animaux du lac également. Et puis, il y a aussi alors, passablement d'oiseaux hein, que l'on peut voir au Kenya.
Ah oui, il y a énormément d'oiseaux, des oiseaux dans la savane, des oiseaux autour des lacs. Ben, je parlais au début d'émission là, particulièrement du lac Baringo qui est vraiment reconnu pour ça parce qu'il y a plus de 400 espèces d'oiseaux qui nichent autour de ce lac. C'est le paradis des ornithologues. Mais bon, bien sûr, en général, les touristes, les guides sont un peu moins intéressés par les oiseaux, à moins de faire un voyage spécifiquement pour l'ornithologie, mais les gens veulent voir ce qu'on appelle le Big Five, là, les cinq grands que sont l'éléphant, le léopard, le guépard, le lion, le rhinocéros, enfin je ne sais plus exactement.
Mais ça c'est ce que l'on propose aux touristes quand on fait un safari.
Voilà, oui, ils aiment aller voir les grands animaux emblématiques, mais c'est sûr que quand on y reste un petit peu plus longtemps ou qu'on s'intéresse un petit peu à d'autres choses, la savane foisonne d'animaux de toutes sortes, d'insectes.
Est-ce qu'il y a aussi des serpents ?
Alors, il y en a, j'en ai vu, mais c'est difficile à voir.
Ça, c'est pas mes animaux préférés, les serpents.
Mais oui, alors c'est vraiment incroyablement diversifié. Et même quand vous êtes au camp, autour de votre tente, il y a des animaux. D'ailleurs, ma fille a découvert un scorpion sous sa valise, hein, alors qu'elle refaisait ses bagages. Bon, c'était pas un scorpion dangereux, mais c'était surtout intéressant d'en voir, hein, d'en découvrir. Hein.
Parce que justement, quand vous vivez là-bas, ben vous vous mettez au rythme des Maasai. Alors, comment est-ce que vit ce peuple ? Est-ce qu'ils ont des coutumes ?
Disons, on se lève avec le soleil et puis on se couche une fois qu'il fait nuit. Donc, c'est tous les jours environ 6 heures. Donc, le rythme est un peu très, très régulier. Pas comme chez nous, on a tout le temps où le soleil ne dure jamais le même temps d'un jour à l'autre. Et en plus, on a encore les changements d'heure. Donner l'heure en Swahili, vous donnez l'heure quand il est 1h, ça veut dire qu'il est 7h du matin. Donc le jour commence à 6h. Quand il est 7h pour nous, c'est 1h pour eux. Donc on mange à 6h, à midi. Enfin,
il y a un petit décalage.
Il y a un décalage. Le jour commence, chez nous, ça commence à minuit. Là-bas, ça commence à 6h.
Et c'est quoi un peu la cuisine traditionnelle kényane.
Alors, j'ai eu l'occasion d'aller dans un village traditionnel avec mon ami Jackson, où il y avait encore de sa famille qui vivait. J'ai eu l'occasion de préparer et de manger un mouton façon traditionnelle dans la savane. Mais aussi, j'ai eu l'occasion de goûter ce qu'ils font traditionnellement. Parce que la viande, ils en mangent une fois par tous les 2 semaines. Hein. Ils mangent... ils mangent leurs animaux que de temps en temps. Par contre, ils font le mélange de lait et de sang. Ils prélèvent du sang sur une vache. Ils ne la tuent pas. Hein. Ils prélèvent dans le cou, dans une veine. Et ils le mélangent au sang.
Un genre de boudin, ils font ?
C'est pas un boudin, c'est un breuvage. En fait, ils le brassent, ils récoltent le sang. Ensuite, ils le brassent, ils enlèvent ce qui est fibreux. Et puis après, il rajoute du lait. Alors, j'ai goûté. Alors, quand on n'a pas l'habitude, ça fait quand même un peu un haut-le-cœur, mais surtout, ça reste longtemps sur l'estomac parce qu'on n'est pas habitué à digérer du sang.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Comment vous faites pour sélectionner vos photos, Jean-Pierre Blanchet ?
Alors, effectivement, il faut en faire beaucoup pour en avoir quelques-unes qui soient exploitables ou exposables. Donc, je fais déjà une sélection sur place directement, ce qui n'est pas bon. Et puis après, c'est plus tard. Souvent même en retour de voyage où je fais une sélection, où je recherche les photos où le regard est le mieux marqué, où l'attitude est la meilleure. Et oui, mais c'est 1 ou 2 pour 1000 hein, qui sont vraiment bonnes ou exploitables.
Quand est-ce que vous êtes retourné au Kenya pour la dernière fois ?
Alors, c'était l'été passé. J'étais dans le camp de mon ami Jackson. Et puis, je profite, puisque j'ai l'occasion de saluer une famille française qui nous écoute aujourd'hui, que j'ai rencontré, la famille Colombano, que j'ai rencontré dans le camp de mon ami Jackson et qui avait profité de faire un voyage que tout le monde peut faire. Hein. C'est accessible à tout un chacun. Chacun de vous peut contacter Tembo by Jackson.
Et il organise des safaris
depuis son camp. D'ailleurs, il a ouvert un deuxième camp maintenant. C'est vraiment incroyable toute l'évolution qu'il y a eu depuis que je l'ai connu. Parce que quand il était enfant, c'était quelqu'un à 6 ans. Il allait à pied à l'école. Il faisait plusieurs heures de marche. Il m'a raconté qu'il y avait des éléphants sur le chemin, qu'il y avait des léopards et qu'il allait à l'école et que déjà à l'école primaire, parce que c'est lui qui voulait aller. Ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer l'école, donc il allait après l'école encore travailler pour payer ses professeurs. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup chez nous, de nos enfants, qui seraient d'accord d'aller travailler pour payer ses professeurs pour aller à l'école. Mais c'est quelqu'un qui en veut. Et j'ai vraiment senti ça. C'est pour ça que j'ai pu avoir cet échange, que j'ai pu faire venir en Suisse en 2015. Et ça lui a aussi apporté autant que moi, ça m'a apporté d'aller là-bas.
On verra.
Il a aimé la fondue.
Ah oui.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Allô Catherine.
Oui, bonjour.
Mais bonjour, comment allez-vous ?
Bien, bien.
Vous habitez à Beuvais. Décrivez-nous votre photo, Catherine.
Alors, c'était au Botswana qu'on a vu ça. Alors, moi, je n'étais pas présente parce que ce jour-là, il y a eu la naissance de mon petit-fils, mais c'est mon mari qui a pris la photo. Et moi, j'étais restée dans la lodge pour avoir des nouvelles, comment ça se passait, cette naissance. Et c'est mon mari qui a pris la photo. C'est en fin de journée. Elle est vraiment super.
Elle est magnifique, hein, cette photo.
Ouais.
Ça fait tellement penser au Roi Lion. Moi, je vois le petit Simba ou son papa sur son rocher. Hein, c'est vrai, ça fait un petit peu ça.
Jean-Pierre, quand ils sont dans cette position ou comme ça, alors ils profitent forcément des rayons de soleil, mais là, ça veut dire qu'ils n'ont pas faim du tout, en fait. Ils ne vont pas se préparer à chasser.
Là, apparemment, ils n'ont pas faim. On voit que la lionne qui est assise, là, elle a le ventre un peu bien rond, là, les deux qui sont au fond. Je pense que là, c'est la fin de la journée. Ils profitent des derniers rayons du soleil. C'est d'ailleurs pour ça que cette photo nous a fait un petit coup de cœur, parce que c'est une des rares photos qui était vraiment travaillée avec la lumière, et ses reflets dans l'eau, ça fait un petit coup de cœur. L'ambiance ouais. aussi.
En tout cas, on vous remercie infiniment. Vous féliciterez encore votre mari. Quel est son prénom ?
Christian.
Alors Christian, bravo pour votre photo. On vous souhaite un bon dimanche de Pâques, un bon lundi de Pâques. Et puis profitez de manger tous les œufs que vous voulez.
Tout à fait.
Et un jour, si vous retournez dans ce pays, Catherine, peut-être vous verrez Claire avec sa table et sa radio et son micro derrière ces lions, là, en train de faire l'air de jeu en direct. Je vous garantis que les lions, ils regarderaient Claire, pas le lac.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Qu'est-ce qu'il a pensé, Jackson, de notre pays, la Suisse ?
Alors, c'était assez extraordinaire. On a eu l'occasion de faire énormément de choses avec lui. On l'a bien sûr amené dans la nature. On lui a fait manger la fondue. Il est allé au creux du vent. On l'a fait faire un saut en parapente avec des amis. On est allé, il a fait aussi de la spéléologie avec un autre ami. Plein de choses comme ça. Mais deux, trois petites choses intéressantes qui l'a frappé quand il est arrivé, quand il est venu. Quand il est arrivé à Neuchâtel, bon, déjà, c'était les parkings, qu'on puisse mettre les voitures les unes sur les autres. Quand il est arrivé à Neuchâtel, qu'il a vu un parking sous l'eau, ça l'a impressionné. Et les trains qui rentrent dans la montagne, quand on est arrivé, on revenait de Zurich, on est arrivé à Bienne, il a vu le train qui rentrait dans la montagne, il a trouvé ça absolument incroyable. Par contre, des choses qu'il a trouvées très, pour lui, complètement, on était complètement fous. On nettoie les routes avec une machine, ça giclait par terre, ça balayer, qu'on dépense de l'eau, qu'on puisse nettoyer les routes, qu'on aille jusque-là, pour lui, c'était vraiment...
Ben oui, il doit faire attention avec l'eau.
Et puis, il y avait des rouleaux de gazon pour remplacer des petits bouts qui manquaient. Alors ça, il a trouvé absolument incroyable qu'on puisse faire ça, que ça existe.
Le pire, c'est qu'on arrose du gazon synthétique, hein, ici.
Oui, eux, ils sont constamment en train de chercher un petit peu d'air pour leurs vaches. Quand il a vu nos bords de route, nos talus d'autoroute, il a dit, mais vous ne mettez pas des vaches ici, c'est incroyable.
Mais j'imagine.
Etc. Donc c'était. Ouais. Puis je trouvais qu'il y avait pas grand monde dans les rues. Bon, on est arrivé, c'était week-end, c'était un dimanche. Il se demandait où étaient les gens, mais parce qu'en Afrique tout le monde est dehors.
C'est pas la même température aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous remercie infiniment, Jean-Pierre, d'être venu nous parler de votre passion pour la photo animalière, de nous avoir présenté cet ami aussi, Jackson. Alors, si une fois il vient en Suisse, arrangez-vous pour nous l'amener ici dans les studios d'RTL. Je suis sûre qu'il sera vraiment très étonné. Hein.
Oui, alors il quand il est venu, il a donné une conférence, on a organisé une petite exposition, il a donné une conférence, il était extrêmement à l'aise, c'était, les gens l'écoutaient vraiment, on a dû l'arrêter tellement, ça aurait pu durer très longtemps, tellement les gens l'écoutaient, et j'espère qu'un jour on pourra le faire revenir en Suisse. Ça a été extrêmement difficile, il m'a fallu 2 ans pour obtenir les autorisations nécessaires, ça je pourrais une fois vous le raconter, mais si vous voulez plus d'informations, plus d'images, vous pouvez bien sûr aller sur mon site internet biodiversimage.ch ainsi que mon Instagram jean-pierre-en-un-mot.blanchet. Vous pourrez trouver d'autres informations, de reportages, des photos, etc.
Merci infiniment Jean-Pierre, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin dans l'air de Jupe.